Et c'est le journal de Nicolas Crozel. Bonjour Nicolas.
Bonjour Karine, bonjour à tous. Il faut montrer patte blanche depuis ce matin pour aller au musée, au théâtre, au cinéma ou encore à la piscine. Le pass sanitaire est étendu aux loisirs. Le gouvernement veut inciter les Français à se faire vacciner. Objectif, éviter une nouvelle saturation des hôpitaux dans quelques semaines. Cette saturation, c'est ce que vit actuellement la Tunisie. Le pays est submergé par le virus. Le système de santé ne répond plus. Nous irons sur place dans un instant. En France, certains députés commencent même à parler d'une vaccination obligatoire dès 12 ans. Nous irons à l'Assemblée.
Et à 7h50, lui est d'accord pour l'incitation à la vaccination, mais pas plus. Et il est farouchement opposé au pass sanitaire. Le débat dans l'hémicycle aura lieu cet après-midi. L'insoumis député de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, sera notre invité tout à l'heure sur France Inter.
Dans l'actualité également, l'Élysée dénonce des faits très graves après les dernières révélations de France Inter dans l'affaire Pegasus. Le Maroc accusé d'espionnage aurait ciblé l'un des téléphones d'Emmanuel Macron et ceux de plusieurs ministres. Et puis c'est déjà parti au Japon pour les Jeux Olympiques. Deux jours avant la cérémonie d'ouverture, les premières épreuves ont commencé cette nuit.
France Inter.
18 000 personnes contaminées par le Covid en 24 heures en France.
Et ça fait plus 150% en une semaine. Une hausse liée au variant Delta très contagieux. Hausse brutale inédite depuis le début de la pandémie dans notre pays. La situation est donc sous haute surveillance pour éviter à tout prix une nouvelle saturation des hôpitaux dans quelques semaines. Éviter ce qui se passe ailleurs dans le monde. Par exemple, en Tunisie, le pays est submergé. Les autorités réquisitionnent les cliniques pour aider les hôpitaux qui sont débordés. L'oxygène manque. 8% seulement de la population a été complètement vaccinée pour l'instant. Alors pour accélérer le rythme, depuis hier, la vaccination est ouverte à tous les adultes. Mais dans certains centres, il manque des doses. Reportage à Tunis, Maureen Mercier.
Le centre de vaccination de la Marsa dans la banlieue de Tunis à peine ouvert. Les jeunes forment déjà une file de plusieurs centaines de mètres. Ils attendent sous un soleil de plomb. Pour ces jeunes femmes, la vaccination, c'est un devoir, tout simplement.
La situation en Tunisie est horrible. Bien sûr que j'ai pas le choix maintenant.
Moi, j'ai 18 ans et j'ai vu plusieurs personnes malheureusement décédées.
Je suis prête à rester ici jusqu'à minuit, même plus, pour me faire vacciner.
Le ministère de la Santé ne l'avait pas annoncé, mais selon les témoignages recueillis, 1000 doses par centre seront attribuées seulement. La plupart des jeunes rentrent non vaccinés et écœurés, comme Wael.
Il n'y a pas une volonté politique, je pense que voilà, ils sont dépassés. C'est vraiment du n'importe quoi.
À l'intérieur du centre de vaccination, les bénévoles s'activent.
On n'a pas envoyé assez de doses.
On ne nous a pas envoyé assez de doses, dit Somaya, effarée de constater que la plupart des jeunes qui font la file ne pourront pas être vaccinés. La faute, selon elle, au ministère de la Santé qui n'a pas anticipé.
La classe politique, elle est nulle. Tous les Tunisiens, on n'a plus confiance à eux.
Dans la foulée de cette journée de vaccination porte ouverte, le ministre de la Santé a été congédié. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Un manque de doses en Tunisie, donc des populations qui attendent en vain d'être vaccinées. Contraste avec ce qui se passe en France où certains traînent des pieds. On a vu ces derniers jours quelques manifestations d'anti-vaccins dénoncer une atteinte à leur liberté. Or les experts, les médecins le martèlent, seule la vaccination nous protégera d'une quatrième vague. Voilà pourquoi dans les couloirs de l'Assemblée nationale et du Sénat, certains parlementaires commencent même à avancer l'idée d'une vaccination obligatoire dès 12 ans, Claire Flochel.
Ce sont en particulier les députés et les sénateurs socialistes qui se prononcent pour. Ils estiment que l'extension du pass sanitaire est une obligation vaccinale déguisée. Lamia El Haraj est chef de file pour le groupe socialiste et apparenté sur ce texte.
Nous devons nous protéger collectivement et pour ça, il faut des consignes qui soient claires. On a commencé par nous dire il n'y a pas de masque, puis il n'y a pas de test, puis il n'y a pas de vaccin. Aujourd'hui, nous sommes pour un message de clarté qui dit que depuis 1902, un certain nombre de vaccinations sont obligatoires en France, que c'est une mesure de santé publique qui est indispensable, qui est essentielle et qui vise à nous protéger collectivement.
Au sein de la majorité, la question divise. On n'est pas forcément contre, à l'image d'Émilie Chalas, députée LREM de l'Isère.
Si les Français ne se mobilisent pas dans les semaines à venir pour se faire vacciner et atteindre un taux de 80 à 85% d'immunité collective, je crains que nous ayons à passer le cap effectivement de la vaccination obligatoire. J'assume cette position et je crois qu'il faut que les Français s'y préparent.
Autre son de cloche de la part des alliés de La République En Marche, pour Olivier Becht, président du groupe Agir à l'Assemblée, nous n'en sommes pas encore là.
La vaccination obligatoire pour tous, ça doit doit vraiment être l'arme d'ultime recours. La vaccination doit rester un choix.
Cette proposition d'une vaccination obligatoire challenge en tout cas le gouvernement. Un conseiller d'Emmanuel Macron avoue que la position est inconfortable, surtout quand on est le fer de lance d'une vaccination accélérée, et encore plus si cette vaccination obligatoire devait être mise en place à l'automne.
Alors on n'en est pas encore là. Ce qui est obligatoire en revanche depuis ce matin en France, c'est le pass sanitaire pour aller dans tous les lieux de culture et de loisirs qui accueillent plus de 50 personnes, les musées, les théâtres, les cinémas, les piscines. Passe sanitaire, ça veut dire soit une vaccination complète et 7 jours d'attente après la deuxième dose, soit un test négatif de moins de 48 heures, soit un certificat de rétablissement, c'est-à-dire un test positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Passe qui ne concerne pas les mineurs pour le moment. A priori, ce devrait être le cas à partir du 30 août, mais en commission, hier soir, les députés ont voté un report au 30 septembre pour les mineurs. La mesure doit encore être débattue cet après-midi en séance plénière à l'Assemblée. La règle s'applique aussi sur votre lieu de vacances, un camping et autres clubs qui disposent soit d'une piscine, soit d'une salle de spectacle. Ça fait environ 4000 sites concernés dans le pays. Or, ce nouvelle réglementation a été annoncée seulement lundi soir, en plein cœur de la saison. Les directeurs d'établissement ont dû tout revoir en urgence. Heureusement pour eux, chaque vacancier ne sera contrôlé qu'une fois à son arrivée. Nicolas Daillot, qui préside la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, s'en félicite.
Alors on aurait perdu énormément de clientèle si la première stratégie opérationnelle avait été mise en place. Il avait fallu contrôler la totalité des clients aux entrées des piscines et des salles de spectacle. Ça aurait occasionné des annulations en masse. Ça n'a pas été le cas. On en a eu bien sûr un certain nombre, mais les clients, lorsqu'on leur explique le dispositif, lorsqu'ils comprennent que seuls à l'entrée dans le camping, ils seront contrôlés, finalement sont plutôt satisfaits sur la simplicité de la mesure, sachant que le porte-parole du gouvernement et le gouvernement d'ailleurs, d'autres ministres ont indiqué que des mesures de tolérance seraient acceptées dans les prochains jours pour nous permettre d'appréhender les nouveaux outils que nous allons devoir utiliser. Et puis la prochaine grande étape, c'est clairement à partir de samedi.
Nicolas Daillot, le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, avec Marion Ferrer. Le pass sanitaire doit ensuite être étendu aux bars et restaurants et à certains centres commerciaux au mois d'août. Le Premier ministre Jean Castex est l'invité du journal de 13h de TF1. Il devrait préciser la suite du calendrier et annoncer peut-être de nouvelles mesures. Et puis les personnes vaccinées qui se retrouvent cas contact ne seront pas obligées de s'isoler pendant 7 jours, annonce de la Direction Générale de la Santé. Pour les autres, en revanche, les cas contacts qui ne sont pas totalement vaccinés, là, l'isolement est strict. Il doit bien durer une semaine, même si le test immédiat est négatif.
Emmanuel Macron a-t-il été espionné par le Maroc ?
C'est la suite ce matin des révélations sur France Inter de l'affaire Pegasus, du nom de ce logiciel israélien qui s'infiltre dans les téléphones portables. L'enquête menée par la cellule investigation de Radio France, membre du consortium de journalistes Forbidden Stories, montre que l'un des téléphones d'Emmanuel Macron fait partie de la liste ciblée par le renseignement marocain. Ça ne veut pas dire que le téléphone du président français a été formellement surveillé, mais le doute est là. Et si les faits sont avérés, ils sont très grave, a dit l'Élysée. Il faudra des sanctions, appuie de son côté le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti.
Si, encore une fois, ces faits sont avérés, c'est une agression qui est inqualifiable, insupportable et qui doit appeler une réaction forte de l'État français, du gouvernement français. Toutes les voies doivent être explorées, mais nous avons des relations amicales avec le Maroc qui joue dans une région du monde stratégique un rôle de stabilité important. Cela est totalement inacceptable, insupportable. Il peut y avoir des réponses de plusieurs natures, diplomatiques, économiques, ou qui revisitent nos relations de sécurité avec ce pays.
Le dossier Pegasus, les dernières révélations, les dernières réactions aussi, c'est sur franceinter.fr. Et à 8h20, Karine, avec vos invités dans le grand entretien. Jacques Monin, directeur de la cellule investigation de Radio France, Étienne Meignier, chercheur en sécurité à Amnesty International, et François de Rugy, député La République En Marche de Loire-Atlantique. En Chine, des pluies diluviennes et des inondations. 12 personnes sont mortes noyées dans le métro de la ville de Zhengzhou. 200 000 habitants ont dû quitter leur logement et un barrage menace de rompre à Luoyang, où vivent 7 millions de Chinois. Les pluies qui ont aussi frappé le nord de l'Europe la semaine dernière, Belgique et Allemagne principalement. Le dernier bilan est de 200 morts. Il reste de nombreuses personnes disparues. La police des polices a enquêté en France sur quelques 1101 dossiers l'an dernier. L'IGPN présente son bilan annuel. Près de la moitié de ces saisines sont liées à des accusations de violence, notamment lors d'interpellations. Le reste concerne entre autres des enquêtes pour vol, corruption ou faux en écriture. Mais ce bilan, c'est aussi l'occasion de revenir sur un sujet sensible de ces deux dernières années, les manifestations de gilets jaunes et les enquêtes sur les policiers intervenus lors de ces manifestations. Enquête Ariane Grissel dont peu ont abouti.
Entre novembre 2018, début des manifestations de gilets jaunes, et octobre 2020, l'IGPN s'est vu confier 456 enquêtes judiciaires liées à ce mouvement après des plaintes de particuliers dans toute la France. Elle en a pour le moment bouclé et transmis 406 à la justice, soit 88% des dossiers. C'est ensuite aux autorités judiciaires de décider de la suite à donner. À ce stade, les trois quarts ont été classés sans suite. Dans 70% des cas, parce que l'usage de la force a été considéré comme légitime. Pour les autres affaires, l'inspection générale explique qu'il a été impossible d'identifier les policiers mis en cause. Brigitte Julien est la chef de l'IGPN.
Ces enquêtes étaient complexes. Elles avaient un caractère chronophage, avec des constatations, l'usage des vidéos, des bandes radio, des analyses balistiques, des auditions, des reconstitutions. Cette complexité se doublait par la sociologie particulière du manifestant, notamment parisien, mais même ailleurs en province, qui ne connaissait pas les lieux de manifestation, qui ne connaissait pas la topographie de la ville et qui était incapable de se situer, d'où notre difficulté d'ores et déjà à le situer dans l'espace et de savoir quels étaient les policiers qu'il avait en face de lui.
Pour l'instant, sur ces 456 enquêtes liées aux gilets jaunes, 19 policiers font l'objet de poursuites devant la justice, notamment pour des violences. Les autorités judiciaires doivent encore décider de la suite à donner à une centaine de dossiers.
Ariane Grissel.
Deux jours avant la cérémonie d'ouverture, les JO de Tokyo ont déjà commencé dans la nuit, heure française.
Oui, avec le début du tournoi de softball, c'est une version féminine du baseball, et un premier match entre le Japon et l'Australie remporté par le Japon. La rencontre se jouait à Fukushima, tout un symbole pour les organisateurs 10 ans après la catastrophe nucléaire. Début aussi aujourd'hui du tournoi de foot féminin. Et puis à Tokyo, le village olympique se remplit petit à petit, forcément, au milieu de mesures sanitaires très strictes, sans le moindre contact avec le public. Mais pas de quoi doucher l'enthousiasme des Français déjà sur place, Fanny Lechevestrier.
Et on est loin, très loin même, des déclarations de la semaine dernière d'une athlète anglaise qualifiant le village olympique de prison. Rien de tout cela quand on pose la question aux Françaises Maxime Collard et Elisa Barbelin.
Ah ben ça se passe top. Tout est grandiose. Il y a du monde partout, de plein de pays différents. Moi, c'est mes premiers jeux, donc bah moi, c'est un rêve.
Le cavalier Alexandre Ayache, lui, ne comprend même pas les critiques.
Si vous n'êtes pas content d'arriver au village, il va falloir vite consulter quelqu'un.
Alors bien sûr, ce n'est pas comme avant, témoigne l'archer Jean-Charles Valadon, qui dispute ses troisièmes Jeux olympiques. Le port du masque et les distances imposées rendent les lieux moins conviviaux, notamment pour les repas, regrette-t-il.
Le truc qui m'a choqué au self, c'est un peu le côté où tout le monde mange à côté de n'importe qui. Et là, on est entouré d'un plexiglas pour nous faire un coffre individuel. On arrive à parler avec celui qui est en face de nous en parlant fort, mais on enlève vraiment tout le côté humain, ce partage des Jeux olympiques.
Mais à force d'entendre parler des contraintes en place, son coéquipier Pierre Plion s'attendait par exemple à bien pire.
J'avais eu peur de quelque chose de beaucoup plus restrictif, avec du marquage de partout, presque un marché au pas. Au final, c'est plutôt libre et on sent en sécurité.
Et ce, malgré déjà plusieurs cas positifs au sein d'autres nations.
Et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est vendredi à la mi-journée, heure française. En basket, le sacre en NBA, le prestigieux championnat nord-américain cette nuit de Milwaukee, après une dernière victoire face à Phoenix, 105-98. C'est le deuxième titre de l'histoire des Bucks. Le premier, c'était il y a 50 ans. Et puisqu'on parle de succès, pour Kaamelott au cinéma, c'est bien parti. 200 000 spectateurs se sont rués sur les différentes avant-premières, selon le réalisateur Alexandre Astier, qui avait fait les comptes sur Twitter hier soir. Le film tant attendu, plus de 10 ans après l'arrêt de la version télé, sort aujourd'hui partout en France. Tiens, au fait, l'humilité, c'est pas quand il y a des infiltrations? C'est l'une des citations cultes de Kaamelott. Je vous laisse réfléchir.
Merci Nicolas Crozel. Bonne journée à vous.
À demain.
Suivre l'édito Éco.